Marie-Ève Rancourt de la coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics. Vous écoutez Voix de fait. À la lumière du dernier budget, qui sème la misère récolte la colère.
Bonjour, bonsoir. Comme l'indiquait la camarade Rancourt, vous écoutez Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit, cette semaine en compagnie de Nicolas.
Et François.
Et François et Janie qui va se joindre à nous pour un spécial abstentionniste parce que, ben, coudon, il y a des élections, ça a l'air lundi prochain, puis on s'est dit que tant qu'à être un collectif anarchiste qui animait une émission de radio, on était aussi bien d'en parler, de parler de nos positions sur la question. Donc, voter, ça donne quoi? Voter pour le moins pire, pourquoi faire, et puis pourquoi que nous autres on propose de pas voter pendant tout. Donc, c'est pas mal.
C'est rendu qu'on fait même des affiches puis des stickers pour inciter les gens à ne pas voter.
Ben, c'est rendu, en fait, ça fait plusieurs années qu'on fait ça, mais bon, c'est ça. Sinon, on a aussi supposément des blagues quelque part. Est-ce qu'on les a?
Oui, oui, mais plus tard, on va les faire jouer.
On les fera jouer tantôt, OK, à la fin de l'émission. Et puis, ben voilà. On s'en va en musique, puis on revient, on lance ça. Hein?
Oui, on va écouter une pièce des Salles Majesté, et la pièce s'intitule « À voter ».
Ça ne changera pas et...
Allez, 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 allez sandwich au jambon, deux pistolets américains, deux sandwichs au fromage, un pistolet au pâteux, deux boudins noirs, un poulet croque et trois paquets de frites au beurre.
La blague anarchiste.
Qu'est-ce qu'on répond à un patron qui affirme qu'il aimerait nous engager, mais que, hélas, il n'a pas de travail pour nous? On répond qu'il peut quand même nous engager, car de toute façon, le travail qu'il nous propose ne nous intéresse pas vraiment. Pourquoi est-ce que certaines personnes font semblant de travailler? Parce que leur patron fait semblant de les payer. Une fois, c'est un patron qui disait à ses employés: c'est la quatrième fois que vous arrivez en retard cette semaine. Pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'il faut que je comprenne de tout ça? Les employés répondent: bah, c'est jeudi. Une fois, c'est un patron qui demande à une de ses employées pourquoi elle arrive toujours en retard au bureau. Eh bien, c'est tout simple. Vous m'avez dit que je pouvais lire le journal chez moi, mais pas au bureau. Une fois, c'est un patron qui passe devant une secrétaire et lui dit: j'aimerais bien savoir qui vous a dit que vous pouviez faire des activités personnelles pendant vos heures de bureau. Simplement parce que je vous ai embrassé une fois ou deux. La secrétaire répond alors: mon avocat?
Rebonjour sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de fait. C'était la blague anarchiste chronique de notre correspondant en région éloignée, Thomas à Montréal. On vous avait dit la semaine dernière, pas la semaine dernière, l'autre d'avant, que c'était sa dernière. Eh bien non, parce que on a un fidèle auditeur du Grand Nord canadien qui nous a envoyé toute une série de blagues qu'on vient d'adapter, ben que Thomas vient d'adapter et de vous servir sur les patrons. Évidemment, si vous aussi, vous avez des blagues, on ne garantit pas qu'on va les passer. Si vous avez des informations, n'importe quoi,
envoyez-nous-les, puis on va faire un tri.
C'est ça. On peut nous rejoindre assez facilement là, sur notre blog, il y a tout ça décrit. Voix de fait avec un X et un S.blogspot.com.
Tout est quasiment clair.
Tout est quasiment clair. Il y a un onglet, là, contact.
Et voilà.
Et voilà. Donc, avant d'embarquer sur le spécial électoral, abstentionniste, anarchiste, anti-voteur, tout ce que tu voudras, je l'ai souligné, j'avais quand même un reportage que je vais mettre
sur le blog.
Tantôt sur le blog, parce que, voyez-vous, la technologie et moi, ça marche pas toujours, et donc voilà. C'est ce mercredi 27, il y a quand même... Un commando du Frappru qui a fait irruption dans les locaux électoraux de José Werner pour demander en fait une rencontre avec la ministre conservatrice, parce que le gouvernement conservateur a mis à zéro en fait le financement du logement social.
Ce n'est pas rien.
Et puis, c'est ça, à un moment donné, les occupants, après 3 heures de niaisage pour avoir une rencontre qui... Il était parti pour se fixer à 4 heures, mais il n'y avait pas de garantie, parce que vous comprenez, Mme Werner fait la tournée, les centres d'accueil, puis bon, c'est ça, être avec des petits vieux, c'est long, le CEPOL, le comté est grand. Comté est grand, bordel. En tout cas, bref, toujours est-il que finalement, les locataires ont décidé d'évincer la ministre.
Vous avez sorti les meubles.
On a sorti les meubles dans le parking. Ce fut de toute beauté. Il y a déjà des photos sur notre blog. Ça en parle dans plusieurs médias. Écoute, de plus en plus, ce type d'action directe, non violente et dérangeante, pour reprendre la terminologie employée par certains mouvements sociaux, est en vogue.
C'est satisfaisant, en tout cas.
Après t'être fait chier pendant 3 ans, il était vraiment gentil, c'était vraiment bizarre. Hein, personnel du local, là, sérieusement, j'avais jamais vu ça. Là, genre, en tout cas, c'était vraiment étrange. Je n'avais pas vraiment l'impression de les déranger beaucoup. Il était prêt à jaser de politique, t'sais, genre une gang de libertariens.
C'est bizarre.
Ils nous fournirent des chaises. Enfin, bon, bref. Après un certain temps, cette année, on a décidé de faire sentir à Mme Werner ce que beaucoup de locataires sentent à différentes périodes de leur vie. Donc, c'est le type d'intervention électorale qui peuvent être intéressantes. Mais c'est ça, on est en campagne, puis là, c'est la fièvre, hein? C'est un peu comme les séries.
Là, okay. C'est pire que les séries. Hein. Au moins, les séries, ça tue personne.
Ouais, c'est ça. Et donc, c'est ça, c'est la fièvre. On en parle dans tous les médias, pour se dire, pourquoi est-ce qu'on n'en parlerait pas? Évidemment, les périodes électorales... Ça vient tout le temps avec un lot de promesses électorales. On nous dit que cette fois-ci, c'est pour du changement. Écoute, man, peut-être que Jack Layton va être premier ministre du Canada.
Ben oui, c'est parti pour ça.
Who fucking knows? Encore, hein, parce que c'est toujours ça, c'est toujours du changement. Quand c'est pas Layton, c'est le petit Dumont. Puis avant ça, c'était Harper. Puis,
ah oui, puis même, tout le monde en parle. Il y a Dominique Michel qui a dit que le Parti libéral, c'était le changement. Alors, changement, ça peut être vraiment approprié par n'importe quoi, n'importe qui.
C'est un slogan publicitaire. C'est un peu comme... en fait, c'est ça, c'est changer de lessive. Et puis, puis tout le monde nous dit qu'il va tout améliorer, même les conservateurs qui disent que s'ils vont être majoritaires, ça va aller tellement mieux.
Ah oui.
Puis c'est ça. Puis là, ben là, nous autres, là-dedans, ben on n'a rien à vendre. Hein? On n'est pas le genre à, on n'est pas le genre à vous dire Jack, il a l'affaire. Même si peut-être qu'il a l'affaire, je le sais pas, hein, je le connais pas. Mais c'est ça, on veut pas en fait vous convaincre de rien. Mais on aimerait ça amener un léger bémol dans toute cette affaire-là. Hein. Puis notamment sur le fait que si voter, ça pouvait changer les choses, ben ce serait interdit. Sauf que voter, ça donne quoi?
Rien pantoute. Là, tu m'as comme un peu donné le scoop de qu'est-ce que je voulais dire ensuite, c'est ça. Ces élections pouvaient changer quelque chose, ça ferait longtemps que ça aurait été interdit.
Désolé.
que l'on vote pour un ou pour l'autre, c'est pareil au même, dans le fond. Comment ça se fait? C'est qu'il faut comprendre que l'État, soi-disant démocratique, n'est pas neutre. En fait, c'est juste un instrument au service de la bourgeoisie pour s'assurer du contrôle sur les citoyens et citoyennes, afin que ces personnes passent leur vie. Désolé, je vais pas trop vite, j'ai eu ma rencontre. Afin que ces personnes passent leur vie à travailler, à consommer. Ben, en d'autres mots, dans le fond, c'est travail, consomme, ferme ta gueule.
Ça a remplacé le travail, famille, patrie. Maintenant, la famille puis la patrie.
Ouais.
Quoique.
En tout cas, c'est une image que j'ai trouvée cet après-midi. En d'autres mots, dans le fond, nos bons gouvernements sont là pour se servir du bon roulement d'esclavage moderne. J'ai parlé ici d'esclavage salarié. Que ce soit un parti droite ou de gauche, cette mission de l'État ne change pas. Donc, c'est ça, l'État, c'est pas. Tu vas mettre Jack Layton, puis oh, là, ça va être de gauche pour bien aller. Non.
Non, tout le monde nous promet des emplois. Ouais. Plus de travail.
Ouais, c'est ça. Travail, puis c'est ça. Après ça, au cours des dernières décennies, on observe les réalisations, puis aussi des nombreuses gaffes, en fait, des divers gouvernements qui se sont succédés au Canada. Il ne semble pas y avoir de différence majeure entre les conservateurs et les libéraux. C'est toujours la même merde. Dans le fond, la seule différence, c'est que ça change de couleur. des exemples, en fait, il y a plus en plus de travailleurs et travailleuses qui n'ont pas accès à l'assurance chômage. C'était comme ça sur le gouvernement libéral, puis c'est encore la même affaire sur le gouvernement conservateur. L'écart entre les riches et les pauvres, ça se creuse de plus en plus. C'est empire à chaque année, en fait. L'environnement, ça se dégrade encore. Puis il y a encore et toujours de nombreuses compressions dans les services publics. Puis en fait, les libéraux, je pense pas qu'ils étaient vraiment si anti-militaristes que ça, parce que si on se remet dans le contexte qu'avant qu'il y ait la guerre en Irak, ben, il me semble que s'il n'y avait pas eu une élection provinciale prochaine, ben, qu'est-ce qu'il serait allé en Irak? Donc, juste de rappeler ça. Là.
Oui, puis il est allé en Afghanistan. Oui. Par ailleurs. Puis c'est eux autres qui ont commencé à revamper les budgets de la défense. Dans le fond, ils avaient commencé à couper juste à cause du déficit zéro.
Exactement. C'est ça. Hein. Fait que, tu sais, quand Dominique Michel dit que les libéraux, c'est le changement, il faudrait qu'elle aurait peut-être besoin de se faire réfléchir la mémoire un peu.
Vieille un peu.
Attends. Par le biais des élections telles qu'on les connaît, les politiciens nous demandent de lire notre avis, puis surtout de nous la fermer les 4 années qui suivent. En fait, j'ai trouvé une image qui est un peu gore, mais bon, je vais la donner pareil, qui serait assez fou pour accepter de donner son opinion pour ensuite se couper à la langue.
Oui.
C'est ça. Puis c'est un peu fort, mais c'est tout le portrait de la démocratie parlementaire dans laquelle nous vivons. Dans le fond, un exemple de ça, c'est un exemple de ben, qu'on peut pas se plaindre trop fort. Ben, si on a juste à penser à la répression qu'il y a eu sur les manifestants et manifestantes lors du dernier G20 à Toronto de l'été passé, en fait. C'est ça. On peut protester, mais pas trop fort. À mesure que c'est trop fort, c'est toi, ta boîte. Je reprends un bout aussi du texte qui est sur la forme partie que je fais là, sur le voter ça donne quoi qui est tiré de notre site de l'Union communiste libertaire, levraichangement.com. La légitimité du système parlementaire repose tout entièrement sur notre droit d'aller voter, mais pour voter pour qui, pourquoi en fait? Pour des machines à gouverner, pour des spécialistes de la politique qui nous vendent un programme sans garantie, sans possibilité de retourner la marchandise, sans possibilité de résilier le contrat avant la prochaine élection. Bref, on nous demande de déléguer notre souveraineté pour 4 ans, sans avoir droit de regard sur ce que les politiciens et politiciennes font avec. Donc, juste à regarder, dans le fond, tout le scandale qu'il y a eu dans le domaine de la construction, mais que je saurais qu'il ne veut pas avoir d'enquête publique. Donc, c'est ça. Même si tout le monde y veut, ben, lui, il peut décider lui-même qu'il n'aura pas. Il y a quoi se méfier face aux principaux aspirants, à commencer par les conservateurs et les libéraux? Donc on peut dire que ces deux partis nous ont fait baver depuis les confédérations. Confédération, ça existe depuis combien de temps?
1867.
Bon, mais c'est ça, on est en 2011, fait que ça vaut le temps que le système ne marche pas.
As-tu déjà joué à Génie en herbe, François?
Non.
OK.
Ces deux clics s'échangent la barre du gouvernement depuis 200 ans. Pas étonnant qu'ils considèrent la Chambre des communes comme leur chasse gardée et ça ne représente que le seul garant du pouvoir. Mais tu sais, à part ça, t'as le Bloc québécois, ça vient d'un petit groupe de députés nationalistes dirigés par Lucien Bouchard qui auront vu que les partis conservateurs et le Parti libéral en 90. Puis ils sont juste à regarder comment gouvernent les non-démocrates qui ne se rendent pas des élections provinciales, comme le Parti libéral, donc ils s'empressent de rejoindre les rangs et qui tentent de retour sur la scène fédérale. Puis le Parti vert, ben, ils ont une politique ni gauche ni droite qui s'amène à ramasser de tout et n'importe quoi dans le fond pour eux.
Oui, c'est sûr que si on regarde ça, effectivement, dans tous les sens, c'est.
Ouais. Puis, juste une proposition, dans le fond, un des problèmes électoraux de Jack Layton, du NPD, mais c'est d'engager 2500 flics de plus. Fait que,
hey, la police communautaire.
C'est très, très socialiste comme proposition. Hein?
Oui, puis il y a un camarade sur Facebook qui m'a pointé vers un article du Devoir qui dit que le NPD, il vise de baisser l'imposition des PME et même de garder un taux de taxation d'imposition inférieur au Canada, inférieur à celui des États-Unis. Donc c'est
ouais, ben en fait ça, ils en ont contre le fait que les baisses d'impôts aux plus grandes compagnies sont contre-productives dans la mesure où tu baisses les impôts puis les compagnies peuvent crisser le camp, couper des jobs comme à Electrolux. Eux, ce qu'ils proposent plutôt, c'est de faire des crédits d'impôts pour la création d'emplois. Donc ça revient au même, mais tu sais, c'est comme tu pourrais pas te pousser avec le magot, mettons.
Mm-hmm. C'est déjà pas si pire.
À force de regarder cette triste cycle, on devient cynique et c'est de ce cynisme que se nourrissent les populistes et les démagogues qui, sans s'opposer au statu quo, alimentent et forgent les opinions les plus réactionnaires. Juste à regarder pour les réseaux fumés à Québec, c'est assez clair. Face à la menace de notre société de plus en plus à droite, plusieurs se réfugient derrière l'illusion du vote stratégique.
Ouais, mais c'est ça, on va revenir sur le vote stratégique après cette courte pause musicale, j'imagine.
OK, allons-y, oui. On va écouter une pièce, justement. Savez-vous que Dieu était dans l'opposition?
Non, je savais pas c'est quoi ça.
C'est une chanson de Cercle Laurent qui s'appelle Dieu. Et puis voilà, vous êtes à Voix de fait. C'est qu'il y a 88.3.
Allez, s'il y avait un bon Dieu, aurait-il fait Mireille Mathieu? Aurait-il inventé Giscard ou les chansons d'Hervé Villard? Et les sandwichs de Jacques Borel, vous croyez que ça descend du ciel? Si vous voulez mon opinion, Dieu est une magouille de l'opposition. Dieu est une magouille de l'opposition. Pom, 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 Dieu est une magouille de l'opposition. Si on est à son image, alors bonjour le bricolage. Je le vois mal avec des boutons, ou un cancer, ou des roustons. Et si je suis beau comme un dieu, qu'est-ce que je fais tout seul dans mon pieu? Je vous ai dit mon opinion. Dieu est une magouille de l'opposition. Dieu est une magouille de l'opposition. Dieu est une magouille de l'opposition. Une foutaise, un cac du gang de l'antibèse. Il pourrait nous lâcher la grappe avec ses papes et ses soupapes. Il boufferait ce qu'il y a dans son assiette. Il me laisserait toucher ma cliquette. Et il s'occuperait de ses oignons au lieu de magouiller pour l'opposition. Dieu est une magouille de l'opposition. Dieu est une magouille de l'opposition. Un chrétien dans la salle a un bon rapport avec Dieu. Qui lui disent qu'on comprend que dalle à ces vieux plans libidineux. Que si Jean-Paul II se fait la malle avec Mademoiselle de Lisieux, et ben moi pour ma part ça m'est bien égal. Et je leur adresse tous mes meilleurs voeux. Dieu est une magouille de l'opposition. Dieu est une magouille de l'opposition. Dieu est une magouille de l'opposition. Dieu est une magouille de l'opposition et démerdez-vous.
À ma droite, monsieur Marc Berthomieu.
De retour à votre fait. Alors, Dieu est une magouille de l'opposition, François?
Ben, certainement.
C'est quoi ça, cette bande-là?
Cercle Laurent, c'est un vieux de la vieille de la chanson française. Il a déjà fait la première partie de Renaud.
Ah bon? Eh bien, ça revient aux moutons, avec l'abstention. Surtout ces temps-ci, là, on vient beaucoup, 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 beaucoup nous chercher avec la question du moins pire. Ça change de jour en jour et de semaine en semaine, le vote stratégique, le vote pour le moins pire. On a commencé avec « il faut empêcher un peu d'être majoritaire à voter pour le Bloc ». Puis là, maintenant, tous nos amis progressistes disent « ben là, il faudrait peut-être réussir à faire rentrer des députés NPD ». Puis, donc c'est ça, voter pour le moins pire.
Absolument. Deuxième partie de cette, dans le fond, voter, ça sert à quoi? Levraichangement.com. Donc, à chaque élection, bon, on dit, les gens, généralement propres sur eux-mêmes, comme je disais sur le blog, ils vont dire, c'est pas bien l'abstentionniste, si vous n'allez pas voter, ça va favoriser probablement les conservateurs. D'ailleurs, on a entendu ça dans la section commentaires du blog. Mais à notre avis, la stratégie du moins pire, c'est pas une solution, c'est poser la question à l'envers. En fait, si un certain parti est pire que les autres, et notre vote devrait donc aller à un parti un peu moins pire, qui a le but d'empêcher l'élection du premier, ça, c'est un peu une façon d'agir qui est un peu bancale, parce que au moins eux, ils ont compris, les gens qui votent de façon stratégique ont compris que, contrairement à ce que dit Élections Canada, voter, c'est pas un droit démocratique nécessairement fondamental. C'est plutôt, ils considèrent en fait le vote comme une façon de minimiser les dégâts. C'est pas nécessairement un droit fondamental.
Ouais, ou comme disaient certains camarades français, si le meilleur ne peut pas sortir des unes, le pire, oui.
On peut dire ça comme ça. Et donc, entre deux mots, il faut choisir le moindre, dit le proverbe. Mais évidemment, comme tu l'as dit dans l'émission précédente, voter pour le moins pire, c'est quand même voter pour un pas bon. Et donc, tout ce qu'on fait, c'est changer la casquette du capitaine alors que c'est le bateau qui continue à couler. Et faut pas oublier une chose très importante, c'est qu'en votant, on légitimise le système électoral. Le système canadien électoral actuel, le système parlementaire est bancal et antidémocratique, mais en votant, on le légitimise, on dit « c'est correct ». Et d'ailleurs, Nicolas, j'ai quelque chose d'intéressant que nos camarades ont excavé du site d'Élections Canada, parce que les gens qui ont fait l'article que je suis en train d'essayer de commenter en ce moment, ils ont fait des devoirs, sont allés sur le site d'Élections Canada pour s'informer et trouver des parties intéressantes, et ils ont découvert un extrait, je vous le cite. Élections Canada dit que la légitimité d'un gouvernement réside dans le fait qu'il est élu. De faibles taux de participation peuvent mettre en question cette légitimité démocratique. Alors là, c'est Élections Canada qui le dit, et c'est pas nous. Et si on regarde d'ailleurs du côté des taux de participation depuis plusieurs élections, on constate que les abstentionnistes gagnent à peu près toutes les élections. Si l'abstentionnisme était un parti...
Ils ont la pluralité des voix.
Absolument.
À défaut d'avoir la majorité, on n'est pas encore la majorité, on est encore la pluralité.
On travaille là-dessus. Et même si les médias s'alarment constamment contre le cynisme, la paresse et le désintérêt, oui, peut-être, mais c'est aussi des symptômes que le système ne fonctionne pas. C'est les symptômes d'une maladie. Mm-hmm. Donc, effectivement, les gens sont peut-être effectivement tannés, désintéressés et paresseux, mais
c'est un signe d'une crise de légitimité profonde de la démocratie représentative, voilà. De la démocratie libérale.
Et donc, nous, donc je parle au nom de l'UCL, l'Union communiste libertaire, l'organisation auquel on appartient, on refuse de voir la démocratie comme le droit de donner carte blanche à qui que ce soit pour décider notre place pendant 4 ou 5 ans. Parce que c'est ça, les élections. On donne vraiment carte blanche. Pendant 4 ans, 5 ans, si on n'est pas d'accord, ben on a juste à se taire. D'ailleurs, la bombe le dit souvent, hein, si vous n'êtes pas content, vous avez juste à voter contre moi aux prochaines élections.
Ben, ça, justement, là-dessus, tu me permets de t'interrompre 2 secondes?
Oui, ben, quand tu veux.
Écoute, c'est un argument qui revient souvent. Si vous n'allez pas voter, vous ne pourrez pas vous plaindre. Ah oui, moi, j'aurais tendance à leur virer à l'envers. J'aurais tendance à dire, théoriquement, ceux qui votent,
il
accepte le système tel qu'il est. Si tu votes pour un candidat, tu acceptes donc que dans les règles du système actuel, le candidat qui obtient le plus de voix est élu et normalement est légitime et peut gouverner. Et donc, c'est celui qui vote, c'est celle qui vote qui devrait normalement ne plus pouvoir chialer.
Absolument.
Parce qu'il a déjà donné son avis. Alors que celui ou celle qui vote pas, qui s'intègre pas, qui s'implique pas dans ce processus-là, lui ou elle garde toute sa capacité d'indignation parce que, de fait, il n'a pas légitimé. Il n'a pas légitimé les règles du jeu et donc, à ce moment-là, il est tout à fait légitime de chialer.
Absolument, même plus que les autres, comme tu le dis si bien. Puis bloquer les conservateurs, c'est pas suffisant. C'est même pas une victoire, ni même une posture défensive efficace. C'est les idées qu'il faut combattre au jour le jour. Ça, on le fait constamment en tant que collectif politique. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir la chance de contester le pouvoir si les moyens utilisés sont précisément ceux qui le renforcent? Parce que quand on... Si on combat le système électoral, ben faut pas aller voter. Comme ça, ça n'aura pas de sens après ça, justement, le dénoncer. L'idée du vote stratégique, c'est assez simple. C'est un certain parti est pire que les autres et notre vote devrait donc aller à un parti un peu moins pire qui a le plus de chances d'empêcher l'élection du premier. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des Reddit. De manière générale, les partisans du vote stratégique ont au moins le mérite d'avoir compris que le vote n'est pas un droit fondamental. Ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des Reddit. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Ça fait le tour de la section « Voter pour le moins pire ». Puis je vais terminer avec quelques citations ou quelques remarques par rapport à d'autres libertaires par rapport au vote. Parce que les libertaires en général, bon, nous on fait partie d'une organisation libertaire, l'Union communiste libertaire, mais on n'est pas représentatif nécessairement de l'ensemble des libertaires.
Il y en a plusieurs saveurs, c'est plusieurs
ça.
Écoles.
Il y a toutes sortes d'écoles, il y a toutes sortes de gens qui pensent différemment.
Il y a d'autres la gomme ballonne, d'autres le beefsteak.
Il y a des libertaires qui ont parlé intelligemment, de façon intéressante sur le forum en disant « Moi, je suis un libertaire et je vais voter ». Alors, effectivement, il y a des libertaires qui sont comme ça. Puis d'ailleurs, si on regarde un peu autour de nous, par exemple, Jello Biafra, hein, ex-chanteur des Dead Kennedys, ben lui, il s'est déjà présenté comme gouverneur de la Californie, puis il milite aussi encore dans le Parti vert aux États-Unis.
Ouais, c'est un peu comme le gros cave, ça. Si tu regardes la vidéo du gros cave, il y a une critique assez élevée du système.
Mais je dirais pas jusqu'à dire qu'il est libertaire ni qu'il a une pensée politique très cohérente, là, mais bon. je parle de libertaire. Là. Donc, Jello Biafra, c'est un exemple. Normand Baillargeon, hein, tout le monde connaît ce cher Normand. Il avait dit qu'il voterait QS en 2008. Sur son blog, il avait dit « Imaginez qu'on entende parler à chaque jour dans les grands médias d'idées neuves qui n'y sont que très rarement évoquées. » C'est la raison qu'il mentionnait pour aller voter. C'est que dans le fond, si ce parti-là gagnait, ben, on parlerait d'autres choses dans les journaux. Effectivement, c'est pas bête non plus, nécessairement. Emma Goldman, à sujet du vote, disait « La véritable émancipation ne commence ni dans les urnes électorales, ni dans le cours de la justice. Elle commence dans le cœur des femmes. Il est nécessaire que chaque femme apprenne cette leçon, qu'elle réalise que sa liberté s'étendra jusqu'au point où son pouvoir de réaliser sa liberté ira. » Et un tout dernier, Noam Chomsky, qui est toujours très populaire. « La démocratie requiert une classe d'élite pour s'occuper de la prise de décision et fabriquer l'assentiment de l'ensemble de la population envers des politiques qui sont supposées dépasser ce qu'elle est capable de développer et de décider par elle-même. » Donc, pour Noam Chomsky, dans le fond, l'assentiment est fabriqué. L'assentiment de la population est fabriqué. C'est fake.
Oui, la fabrication du consentement.
Exactement. Alors, voilà.
Oui. Hey, je voulais juste dire un truc sur le vote stratégique, là. Encore, là. Sérieusement, là. Ça avait du sens il y a 3 semaines, 1 mois. Mais là, là...
Là, on est tout fourré, là.
Là, essayez d'être stratégique, tactique, intelligent, comme vous voudrez. En tout cas, on va avoir bien du fun.
Je vais faire une remarque là-dessus. Il y a un site qui s'appelle Voter stratégique. Projet démocratie. Qui, justement, invite à voter stratégique. C'est quand même ironique d'appeler ça projet démocratie, alors qu'on invite les gens, en fait, à voter pour des partis qui ne représentent pas nos valeurs ni nos intérêts. C'est ça, voter stratégique.
Non, c'est ça. Enfin, bon, bref. On a de la musique, nous autres?
Démocratie, mon cul. D'ailleurs, parlant de démocratie, on peut dire aussi liberté, mon cul?
Oui.
On va écouter Catherine, qui a fait une chanson qui s'intitule « Liberté ». Vous êtes à voix de fait.
Liberté,
Alors là, vous avez raison, il y a un danger parce que là, la presse elle-même décide que les journaux décident d'être des journaux de combat comme au Honduras. Là. Ça veut dire qu'il va y avoir du stalinisme en passant à Québec bientôt ici. Je dois vous dire ça.
It's a bomb, duck and cover.
Hey, le maire Labeaume. L'ineffable maire Labeaume. Ah là là. Donc, sur l'abstention. Ben, attends, le maire Labeaume. On en revient souvent avec la question de dire, ouais, mais qu'est-ce que vous proposez en place? Faut quand même faire quelque chose. Puis, tu sais, on veut voter justement pour le moins pire, pour essayer d'éviter les maires Labeaume et tout. Puis moi, ben, j'aurais envie de dire, quand on est rendu au maire Labeaume, il est déjà trop tard. Quand on est rendu à Stephen Harper, il est déjà trop tard.
Quand on est rendu à Chancheret, il est trop tard.
Oui, quand Sylvie Boucher se fait élire dans Beauport-Limoilou, il est trop tard.
Juste pour vous dire, Sylvie Boucher avait réussi à se faire élire comme députée, mais elle avait été congédiée dans l'emploi de secrétaire pour incompétence.
Ouais, elle n'a pas un CV très reluisant.
Non, c'est ça. Il est trop tard. Il est trop tard. C'est pas là qu'il faut agir. C'est pas de se mobiliser, c'est pas les 100, 150 anarchistes de la grande région du Québec, les peut-être 400 gauchistes très radicaux qui vont s'abstenir, qui vont changer les choses, c'est pas sur ce terrain-là que ça se joue. Parce que les urnes en fait entérinent un rapport de force préexistant. Ils viennent pas changer le rapport de force. Si les choses changent, s'il y a des législations, s'il y a des avancées sociales, s'il y a des régressions, en général, ça suit un changement social, ça le précède pas. C'est pas par la voie législative qu'on change les choses, c'est parce que c'est rendu possible qu'on peut le faire. Des fois, il y a des forces souterraines qui travaillent une société pendant un certain temps, puis qui éclatent au grand jour, puis on peut avoir l'impression que oui, c'est un changement institutionnel, c'est un déblocage. Par exemple, la Révolution tranquille, l'élection de l'équipe de Jean Lesage. Effectivement, l'élection du Parti libéral du Québec à ce moment-là, après la mort de Duplessis, c'est un moment important. Mais l'élection du Parti libéral du Québec aurait-elle été possible sans les mineurs d'asbestos, sans les grèves chez Dupuis Frères, sans la montée du syndicalisme, finalement, au Québec, sans le devoir, sans les combats pour la liberté de presse? Est-ce qu'on aurait été capable de secouer cette jungle-là sans le baby-boom? Mm-hmm. Sans la montée d'une nouvelle génération? Puis,
c'est-à-dire que les changements politiques viennent du bas pour transformer
oui,
la société?
Oui, oui, tout à fait. Puis non seulement ça, mais qu'on vote ou qu'on vote pas, ça importe peu sur ce que je vais dire, mais dans les faits, peu importe le parti au pouvoir, de deux choses l'une. Premièrement, la couleur des partis ne change pas grand-chose sur les politiques sociales et sur le conservatisme moral, dans les faits. C'est vraiment, vraiment, vraiment le climat social qui joue. C'est vraiment les rapports de force en jeu sur le terrain. J'en veux pour exemple la question du logement social, par exemple. Le logement social, tous les partis de toutes les couleurs en ont fait. Et tous les partis de toutes les couleurs ont coupé dedans, à un moment ou à un autre. Et en fait, tu vois, les conservateurs de Mulroney avaient complètement coupé le logement social au Canada au début des années 90. Ils avaient fait ça progressivement, puis finalement, ça finit en 93, dans le budget de 93, ils l'ont coupé complètement. Ensuite de ça, le Frappru, les groupes se sont tournés vers le gouvernement du Québec. C'est le Parti québécois qui a relancé la machine tranquillement, pas vite. Puis bon, on peut se dire, ben, c'est le Parti québécois versus le Parti conservateur, c'est un peu normal, mais l'élection d'après, le Parti libéral du Canada avait dit, oui, nous allons faire du logement social. Paul Martin s'était même engagé un financement récurrent, clair, stable, ce qu'il n'a pas fait. Parce qu'il s'est retrouvé finalement face à l'état des finances publiques, il a décidé le déficit zéro, il n'y avait pas de financement. Puis c'est beaucoup plus tard, le gouvernement chrétien est rentré timidement dans le logement social. Puis après ça, tu sais, il y a eu l'élection de Jean Charest. Jean Charest, le grand saccageur de programmes sociaux et tout. Ben, Jean Charest, il a continué d'en faire du logement social. Parce que le Frappru, c'était pas juste le PQ, c'était pas le PQ, point, là. Puis c'était pas juste associé à ça. Et donc, Jean Charest continuait d'en faire. Pire, après la débandade Le dernier budget de Paul Martin, du gouvernement minoritaire Martin, a été sauvé par la NPD, sauvé par la peau des dents, parce que la NPD a proposé un amendement budgétaire de 3,5 milliards, dans lequel il y avait beaucoup d'argent pour le logement social. Ben, le Bloc avait voté contre, mais finalement, ça avait passé, ça a permis de sauver le gouvernement Martin. Et cet amendement budgétaire-là, Harper l'a gardé quand il est arrivé. Et c'est juste maintenant, 5 ans plus tard, que là, Harper veut couper dans le logement social. C'est juste maintenant, 8 ans après l'élection des libéraux, que là, peut-être qu'ils vont couper encore. Puis bien évidemment qu'on va repartir la bataille pour lutter. Puis et c'est vrai pour le salaire minimum, c'est vrai pour plein de choses. Puis là, on peut dire, bon, OK, sur les questions sociales, c'est peut-être vrai finalement que c'est juste une question de rapport de force de lutte de classe, mais sur les questions morales, qu'en est-il? Bien, prenons le cas de l'avortement, par exemple. Le caucus pro-vie à la Chambre des communes est plus grand que le NPD, est plus grand que le Bloc et regroupe des gens de tous ces partis-là. Regroupe une majorité de conservateurs, mais aussi des libéraux, mais aussi des néo-démocrates, mais aussi des bloquistes. Et quand actuellement la stratégie du gouvernement conservateur, c'est de dire il n'y aura pas d'initiative gouvernementale sur la question de l'avortement. Par contre, il arrive que il arrive en fait même plusieurs fois par session que des députés d'arrière-ban du Parti conservateur amène des projets de loi, c'est des billes privées, puis bon, les billes privées sont tirées au sort, puis il y en a une couple qui ont été défendues. Puis il y a eu le projet de loi C-484, c'est ça, hein, qui a été ramené il y a quelques années. C-484 a été battu. C'est-tu à cause de qui a été battu? Qui a eu la balance du pouvoir là-dedans?
Aucune idée.
Les députés conservateurs québécois.
Oh là là!
Parce que si José Vernant et sa clique n'avaient pas décidé de se tenir debout avec Sylvie Bouchoux aussi, d'ailleurs, il faut le dire, et l'autre... Taouin, là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, je me souviens pas de son nom.
Cannon?
Oui, c'est ça. Laurence Cannon, qui est un ancien libéral, puis... en tout cas, bref, si la dizaine de députés conservateurs du Québec s'était pas tenu debout, ça aurait pas passé. Parce que le Parti libéral du Canada, qui est tellement plus progressiste, qui est tellement plus cool, ben, l'initiative était trop faible pour imposer un vote de parti. Il y a juste le NPD puis le Bloc qui ont imposé un vote de parti là-dessus.
Il a fait les députés voter librement.
Voter librement. Et donc... La gang de pro-vie des libéraux plus le Parti conservateur, ça emportait la majorité. Il a fallu qu'il y ait des députés conservateurs
ah ouais.
qui votent contre. Parce qu'eux non plus, il n'y avait pas de ligne de parti là-dessus. Et eux, ils ont dit, ben au Québec, le débat est clos. Et on ne veut pas ouvrir ce débat-là. Fait que, tu sais, le moins pire, mais, en tout cas, agir au lieu d'élire. Donc, nous, ça, c'est notre programme. On pense qu'effectivement, les choses vont changer quand les rapports de force vont changer, quand ça va changer au niveau de la rue. Puis on pense qu'effectivement, ça entérine. Donc, il est trop tard quand on est face à cette situation-là pour changer quelque chose. Des fois, ça peut retarder un peu l'échéance. Des fois, on peut se retrouver dans une situation où ça peut être tactiquement intéressant. Mais dans les faits, c'est ça. Finalement, ce qui est important, c'est d'agir au jour le jour. Certains diront « Ouais, mais on va voter pareil et tout », mais en général, on se met à s'énerver bien gros et être bien actif politiquement pendant les campagnes électorales, là, sur Twitter, Facebook et autres médias sociaux, la taverne du coin et tout. Mais tu sais, c'est pas ça qui va être déterminant, qui va changer les choses. Ce qui est déterminant, ce qui change les choses, en fait, c'est un travail de longue haleine. Puis ça, la droite l'a compris. La droite conservatrice l'a compris. Elle veut une révolution culturelle. Eux autres, ils se battent pas pour... ce gouvernement-ci, pour là, ils se battent pour, dans 10 ans, dans 20 ans, pour réussir à renverser les mentalités,
c'est ça.
Pour réussir à aller chercher plus loin. Puis c'est pas les premiers. Les néolibéraux avaient fait ça aussi, tu sais. Les dingues néolibéraux ont été inventés d'un temps glorieuse en plein keynésianisme triomphant. Puis c'est ça. Puis c'était justement le fait d'être radical qui leur a permis d'aller de l'avant. Et donc, ce qu'il faut faire... C'est pas voter pour le moins pire ou voter même pour le meilleur. Je sais pas, il y a sûrement des gens qui sont effectivement social-démocrates, puis que mais ça changera pas fondamentalement. Ce qui va changer fondamentalement, c'est quand les rapports de force vont bouger dans la société. T'es-tu en train de me dire qu'il faudrait que je passe à d'autres choses là? Ok. Et puis ce qui me fait des signes, j'ai l'impression qu'il me disait coupe-moi ça. En tout cas, fait que c'est ça. Puis nous, ben c'est ça. On est impliqués là-dedans à temps plein. Et on se fait pas d'illusions sur le système parlementaire. Et il faut le dire. OK, là on en a parlé peut-être plus en termes tactiques, stratégiques, immédiats, mais à moyen terme aussi, le changement social, comme on, la transformation sociale comme on la conçoit, la démocratie qu'on a au Canada, qui est une démocratie représentative vraiment abattardie, une des plus abattardies de la planète, parce que là, c'est le système minimal à un tour et tout, c'est le parlementarisme, là, c'est pas la démocratie, et c'est pas la démocratie, notamment parce que ça ne s'occupe que de la chose politique. Une démocratie qui s'arrête au milieu de travail, c'est pas une démocratie. Une démocratie qui s'arrête aux relations de couple, aux relations familiales, c'est pas une démocratie. On vit pas dans une société démocratique, on vit dans une société plutocratique où on peut choisir les maîtres. On peut choisir la marque de détergent, la marque de lessive, ou on peut... Bon, on vit pas dans une société démocratique, et nous, on veut vivre dans une société démocratique, et c'est ça, on se retrouve dans une situation où, bon, tiens, pour reprendre Chomsky dans ce qui est peut-être de plus intéressant, ce qu'il disait, l'important dans le débat, dans une société capitaliste avancée, c'est de réussir à contenir les normes du débat. Le débat entre les faucons et les colombes. Mais il faut toujours que, à la base, les gens acceptent la légitimité du système. S'ils acceptent la légitimité du système, ils peuvent débattre un peu plus, un peu moins d'armées. On va acheter de l'armement pour aller en Afghanistan, ben non, on va acheter de l'armement pour faire une belle armée, pour participer à des missions de la paix. Mais personne remet en cause l'armée. Et c'est la même chose avec le travail, c'est la même chose avec la santé, c'est la même chose avec le système capitaliste. Et donc, c'est une chose, il n'est pas possible dans le système actuel de changer radicalement les choses. Et advenant le cas où une perspective anticapitaliste se développe radicalement, il est clair, net et précis que ça ne se jouera pas par des élections. Puis on le voit partout, même des gouvernements qui réformistes qui avaient qui s'attaquaient là, de façon modeste aux intérêts des privilégiés ont été renversés par des coups d'État. On peut penser à Pinochet, on peut penser aux 3-4 tentatives de coups d'État quant au goût de Chavez, qui est pourtant, mais vraiment pas un modèle de radicalisme et de révolution socialiste. Donc c'est ça, le vrai changement ne viendra pas de là. Le vrai changement, en fait, va venir à partir du moment où est-ce qu'on prend nos affaires en main, puis qu'on va s'organiser pour changer les choses. Puis ben, ça, ben, c'est une perspective anarchiste, puis... Puis c'est ça, il y a déjà du travail qui se fait au jour le jour. On peut le voir dans une perspective sociale, dans son association étudiante, dans son syndicat, dans son groupe populaire et tout. On peut voir dans une perspective politique aussi, dans des collectifs, dans des groupes politiques comme l'UCL par exemple. Mais en fait, c'est ça, ce qui est important, c'est d'agir au quotidien, puis de mener une guerre de longue haleine, une bataille de longue haleine. Ça va pas se gagner avec des soubresauts, des petits soubresauts de campagne électorale. D'une campagne électorale à l'autre, entre les campagnes électorales, si on fout rien, ben, ça bougera pas.
T'es-tu en train de nous dire que ça prend une révolution?
Ben oui.
T'es-tu en train de nous dire seule la lutte paix?
Ouais.
Trademark?
Ouais. Ouais, puis tu vas aller en musique, puis je vais revenir te parler du 1er mai.
All right. Pour les gens qui veulent peut-être recenser ce qu'on vient de dire, levraichangement.com ou vraichangement.com?
En fait, c'est levraichangement.com. C'est écoutez, actuellement, l'UCL est en campagne. Il y a des affiches, il y a des pamphlets. On a fait un site web, effectivement, où est-ce qu'on résume nos arguments. On est en campagne, pas rien qu'à peu près. On a même passé à Ado Radio hier, toi. On va d'ailleurs le mettre sur le blog tantôt.
Ouais.
Et
ça va être quelque chose.
C'est bon. Je l'ai écouté, ouais. C'est bon. c'est surprenant. Thomas et Camille sortent de ces blagues pour nous faire de la politique. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Donc, on est en campagne. Il y a un site web. Vous pouvez le partager. De toute façon, on s'en fout parce que le 3 mai, on va continuer. Mais on s'était dit que tant qu'à tête en période électorale, on pourrait peut-être faire un site web qui serait utile la prochaine fois aussi. C'est pour ça. On s'est dit qu'on voulait vous en parler. Petite perspective critique. Vous ferez ce que vous voudrez avec ça. Hein? On n'a rien à vendre. Si vous voulez voter pour Jack, allez-y. Ne venez pas broyer après.
Là, tu fais exactement comme les pro-votes font. On va écouter une pièce. Ben, ils disent, si tu votes pas, tu peux pas chialer. Toi, tu dis l'inverse. Mais t'as raison. Bon. OK, on va écouter une pièce des Megatones. La pièce s'intitule « The Election Day ».
Election Day.
de retour à Voix de Fée. Pour le calendrier, parce que bon, agir au lieu de lire, c'est beau ça, mais encore faut-il le savoir où se pitcher. Puis on a plein d'idées, en fait.
Ben oui.
Écoutez, les élections, là, c'est un détail dans les semaines qui s'en viennent. Bon, ça va peut-être avoir des conséquences pendant quelques temps, là, mais... Mais c'est un détail, parce que imaginez-vous donc qu'avant les élections, il y a le 1er mai. Le 1er mai, ça, c'est la Journée internationale des travailleurs et des travailleuses. Et puis, depuis 5-6 ans, Québec, les anticapitalistes et les libertaires essaient de faire de quoi. Puis depuis 3 ans, ça marche un peu mieux, parce qu'il y a le regroupement d'éducation populaire en action communautaire qui a repris le 1er mai. Il y a 8 ans, il avait lancé le 14 avril, Bloquons Charest. Puis à un moment donné, bon, ça s'est un peu étiolé, parce que Charest a été élu et réélu et réélu. Fait qu'à un moment donné, tu sais, bon, fêter le 14 avril, souligner le 14 avril, c'est un peu veg. Fait qu'on en était venu il y a cela 3 ans, au 1er mai. La Journée internationale des travailleurs et des travailleuses. On se dit, bon, il n'y a rien qui se passe à Québec le 1er mai. C'est moche. Des fois, il y a une couple d'anarchistes, une couple de communistes qui font quelque chose, mais... Fait que là... Puis là, ben là, c'est ça. Ils ont relancé avec le carnaval de crise, avec différents trucs. Et cette année... là, il y a une tentative, là, ça fait depuis un an à peu près, on vous en parle, il y a eu des actions, il y a une coalition opposée à la tarification, à la privatisation des services publics qui se met en pied, sur pied dans la grande région de Québec. Puis là, le 1er mai, le REPAC a décidé de lâcher un peu de l'Est puis d'essayer de voir si on l'organise avec d'autres mondes, ce serait pas plus gros si les groupes communautaires l'organisent avec d'autres mondes. Fait que là, bon, ça va coûter coup ça, mais... Le 1er mai, à Québec, dans Saint-Jean-Baptiste, au centre-ville, en Haute-Ville, il va y avoir plusieurs activités. D'abord, à 11h30, il y a un rassemblement qui est spécifiquement organisé par le regroupement d'éducation populaire en action communautaire.
L'école dans la rue.
L'école dans la rue, oui. Il va y avoir de l'animation, du théâtre. On vous invite à venir pique-niquer. Il va faire beau dimanche. Hein. Il fait pas beau là, mais dimanche, il va faire beau.
On devrait parler budget. Il devrait avoir de... C'est ça, ça va être intéressant.
Oui, c'est ça, animation théâtrale et tout. Puis préparation pour la manif. On se met dans l'ambiance, on va même avoir des pancartes pour que les gens puissent faire leurs pancartes. Parce que tu sais, on se fait chier, là. À tout et faux, on est pogné avec des pancartes toutes pareilles, puis on est tanné. Fait que on a décidé de faire des pancartes, puis de laisser les gens écrire ce qu'ils voulaient dessus. Évidemment, on leur suggérait des choses, mais bon, ils feront bien ce qu'ils voudront avec. Donc, pré-rassemblement des groupes communautaires, écoutez, pour pique-niquer sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste. Et à 13h, il y a le rassemblement de tout le troupeau. Alors là-dedans, il va y avoir quelques syndicats. On parle du Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches de la CSN. On parle de quelques syndicats locaux de la Centrale des syndicats du Québec, du syndicat de la fonction publique du Québec, quelques personnes de la FTQ aussi, peut-être d'autres. Il y a des associations étudiantes aussi, notamment l'association étudiante Cégep Garneau, qui représente à elle tout seule en ce moment la moitié des militants étudiants de la grande région de Québec, qui devraient être là, d'autres groupes populaires et tout. Bref, grande manifestation.
Il va y avoir les groupes louches habituels, il va y avoir le collectif anarchiste la nuit, il va y avoir la cellule Jan Quinn, qu'on n'a absolument aucune idée comment prononcer, là, non?
Oui, du Parti communiste révolutionnaire,
il va y avoir des gens de QS, alors
tous ces suspects-là. Grande marche, donc, au centre-ville de Québec pour la Journée internationale des travailleurs et des travailleuses. Donc, ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire aussi qu'on a, il y a nos amis des Mardis de l'Anarchie à la JT qui, mardi prochain, le 3 mai, invite Gaétan Héroux de l'Ontario Coalition Against Poverty, donc de l'OCAP. La coalition terrain contre la pauvreté, à venir nous parler des luttes des chômeurs de Toronto dans les années 30. Puis, parce qu'il faut savoir, hein, à l'époque, là, c'était pas simple, pas en tout, d'être chômeur à Toronto. Il fallait casser de la roche pour avoir à manger et avoir à se loger.
Ouais,
les chômeurs, c'était organisé en club avec les communistes et tout. Puis, en fait, ils ont mené des grosses batailles. Ils ont même organisé une marche sur Ottawa. Puis c'est ça qui a donné, en fait, l'assurance chômage. On dit, ben là, écoute, on est dans la merde, ce serait peut-être le temps qu'on revienne à ce genre de choses-là. Si j'ai bien compris, là, c'est un peu bâtard, là, c'est genre Richard Saint-Pierre qui évite Gaétan au mardi de l'anarchie. C'est fucké, mais ça va être intéressant. Gaétan Héroux est un bonhomme qui a de la verve, qui a beaucoup d'expérience avec les Lumpen de Toronto. Et donc, ça va être bien. Ça commence à quelle heure, ça, d'habitude?
7h30.
C'est ça.
7h30, donc à la JT au 251 Dorchester. Donc voilà. Et finalement, écoutez, agir au lieu de lire, pourquoi pas soutenir votre radio communautaire préférée. Et vendredi le 6 mai, on aura peut-être le temps d'en reparler la prochaine fois, il y a un show, un 5 à 7 Prog, qui est présenté par l'émission Profil. C'est pas mon genre de musique, mais ça a l'air que c'est vraiment une émission géniale où est-ce qu'il y a beaucoup de monde, puis que c'est vraiment des très très bons artistes. Donc c'est DJ D-Project, Mathieu Fuzette et VM. Donc c'est vendredi le 6 mai de 5 à 7 à la Ninkasi du Faubourg. Écoute, les billets sont à 10$, puis ça inclut une consommation. On peut acheter ça sur le web à www.lepointdevente.com.
Mais l'important, c'est de soutenir la station.
C'est de soutenir la station, en fait. Hein, c'est ça. C'est venez boire une bière. Puis écoutez, au pire du pire du pire du pire, vous pouvez aussi juste nous envoyer de l'argent sur notre PayPal. Là, c'est correct.
Exactement.
Et devenir membre de la station, si ce n'est déjà fait.
Trois façons, c'est CKIFM.org, en passant aussi sans compte d'Abraham, ou en appelant sur les ordres de bureau 529-90-26.
Et voilà, c'était Voix de fait avec Nicolas,
Jeannie
et François.
Nous étions heureux de vous présenter ce spécial électoral. Si vous voulez entendre parler de d'autres choses, allez voir sur notre blog, Voix de fait avec un X et un S.blogspot.com.
À la semaine prochaine.
1er mai, fête des travailleuses et travailleurs. Demandons le partage de la richesse.
Dans le monde entier, les gouvernements imposent des mesures d'austérité. L'écart entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser.
Ça ne se passera pas comme ça.
La coalition de Québec et des Chaudières-Appalaches, opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, t'invite à manifester contre le budget du gouvernement libéral.
Rassemblement festif et politique dès 11h30 pour l'école dans la rue du Répac.
Départ de la manif à l'église Saint-Jean-Baptiste, au 480 rue Saint-Jean, 13h, 1er mai.